Moi, donc Eric Lailly, et donc je suis membre de l'équipe de campagne de Nathalie Arthaud, qui se présente pour faire entendre le camp des travailleurs.
Faut-il, selon vous, réguler la collecte et l'usage des big data ?
Oui, ça semble un peu évident, en tout cas pour les données personnelles. Maintenant, toute la question, c'est qui régule et qui contrôle ? Hein ? Google, Facebook ou quoi, peut-être. La NSA, organisme d'État, c'est pas mieux. Hein ? Donc, en réalité... Tant qu'on n'a pas la maîtrise, y compris tant que l'État est lui-même entièrement phagocyté par des intérêts qui ne sont pas ceux de la population, à qui avoir confiance ? Snowden est bien placé pour savoir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en qui faire confiance. Donc c'est un vrai problème avec bien peu de réponses réellement opérationnelles actuellement.
Faut-il encadrer la robotisation et l'intelligence artificielle dans le monde du travail ?
Vous savez, en ce moment, il y a toute une campagne, hein, avec le revenu universel par exemple, pour nous expliquer que de façon irrémédiable, il n'y aura plus assez de travail pour tout le monde à l'avenir, que la robotisation enlève du travail. Bah, moi je dirais que tant mieux si toute une partie des tâches ingrates, difficiles, pénibles, voire dangereuses sont faites par des robots, mais il faut que ces gains de productivité ou ces améliorations techniques et technologiques profitent en premier lieu aux salariés. Et donc, vous savez, dans les années 1970, il y a un groupe qui s'appelait Landrette qui avait publié une étude qui était intitulée « Travailler 2 heures par jour ». Donc oui, on peut réduire fortement le temps de travail, mais il faut, tout en donnant à l'ensemble de ceux qui travaillent un revenu, un salaire qui leur permette de vivre. Ça veut dire que tous ces gains de productivité aujourd'hui sont engloutis par les actionnaires, par les dividendes, et ils ne servent absolument pas à améliorer la vie quotidienne ni des salariés, ni de la population. Donc nous, on est plutôt pour, et enfin, on trouve que c'est plutôt un progrès que toute une série de tâches soit robotisées, soit se fassent de façon mécanisée, etc. Mais la vraie question, c'est à qui ça profite. Donc il faut pour ça, effectivement, réduire fortement le temps de travail et puis répartir le travail. C'est-à-dire que faire en sorte que le travail qui reste absolument socialement nécessaire au fonctionnement de la société, bah, il soit partagé par tout le monde en fonction de ses capacités, de sa santé aussi. Hein, et voilà. Donc il s'agit... Voilà, en réalité, ça nous ouvre des portes extraordinaires pour que les êtres humains se consacrent à bien d'autres choses que des tâches ingrates. Vous savez, la disparition des caisses des supermarchés, aujourd'hui, ça pose un problème d'emploi pour les caissières. Mais enfin, moi, je connais un certain nombre de caissières qui sont plutôt contentes de ne plus avoir ce boulot-là. Hein, c'est ça le vrai problème.
Et quelle est votre vision alors du travail pour l'homme de demain ?
Bah, encore une fois, il faut réduire les tâches ingrates, ramasser les poubelles, si ça peut être mécanisé entièrement, et qu'il n'y ait pas des gens qui passent leur vie à respirer des émanations dangereuses derrière les camions poubelles, c'est une bonne chose. Mais pour ça, il faut modifier en profondeur. Puis je prends cet exemple un petit peu en rigolant, mais enfin pas en rigolant, mais c'est dans des tas de domaines, ça pourrait être fait. Donc oui, je pense que l'avenir, c'est que de réduire le temps de travail nécessaire à la satisfaction des besoins humains, à le réduire fortement pour laisser plein de temps à bien d'autres choses, la culture et puis les relations humaines, etc. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'image qu'on est en train de, enfin, la société qu'on est en train de nous préparer, c'est une partie de la population qui bosse comme des dingues, y compris samedi et dimanche inclus, et puis toute une autre fraction qui est totalement exclue de ça. Donc c'est ça qui va pas. Donc il faut qu'il y ait un partage du travail, mais ça ne peut pas se faire tant qu'on laissera le contrôle des moyens de production, en quelque sorte, à des propriétaires privés.
Quelles mesures éducatives faut-il mettre en place, selon vous, pour fournir la culture numérique aux citoyens de demain ?
Y compris l'éducation nationale, l'éducation, il faut multiplier les moyens de... Il faut cultiver les gens, augmenter... Enfin là, j'ai pas de réponse particulière, mais c'est un problème fondamental de... vous savez, aujourd'hui, globalement, les moyens pour l'éducation nationale, par exemple, sont en baisse. Il y a une inégalité énorme entre les enfants, entre les jeunes, selon leur milieu social, selon leur milieu culturel. Et le numérique, de ce point de vue-là, échappe pas. Je veux dire, c'est pas parce que c'est numérique que les inégalités sont différentes. vous savez, apprendre à se servir d'Internet d'un point de vue, comment dirais-je, à s'y retrouver, à faire la part, etc. C'est un apprentissage. Faut qu'il y ait des, ça devrait se faire à l'école, etc. Il faut des moyens pour ça.
Faut-il poursuivre les recherches en biologie de synthèse et en génie génétique ?
Oui, 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 bien sûr qu'il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre, il faut les... leur donner plus de moyens, et bien sûr.
Il faut-il les encadrer ?
Oui, mais on en revient à la même question que sur la bioéthique. Qui encadre et dans quel but ? Vous savez, encore une fois, aucune technique n'est problématique en soi. Tout dépend, vous savez, enfin, c'est... On parle d'hommes augmentés, de choses comme ça. Vous savez, c'est extraordinaire quand même. J'ai un ami qui vient d'attendre plusieurs années pour avoir une greffe de foie. Il a failli mourir, il a enfin eu une greffe de foie. Si l'avenir, c'est qu'on puisse synthétiser ou mécaniser certains organes, comme tout un travail sur le cœur artificiel, qui est visiblement un échec pour l'instant, qui est mis en œuvre par la société Carmat, qui est une société privée. C'est ça qui est terrible là-dedans. C'est pas qu'on soit en train de concevoir un cœur artificiel. C'est qui le fait, et dans quel but, et comment, et pourquoi. Mais en tant que telle, la technique, elle devrait être un progrès. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a eu tellement de déboires dans des découvertes scientifiques, des techniques, des moyens qui ont eu des conséquences négatives ou des médicaments qui ont provoqué des morts, etc., qui a aujourd'hui un rejet parmi une partie de la population contre les médicaments en général, contre les vaccins en général, contre la science en général. Bah, je comprends ce rejet dans la mesure où on ne fait pas confiance et que les gens qui ont entre les mains tout ça, on comprend pourquoi on ne peut pas leur faire confiance, mais il ne faut pas rejeter la technique en tant que telle.
Le transhumanisme est-il selon vous un progrès ?
Vous savez, c'est un mot fourre-tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, encore une fois, est-ce que si on réussit à greffer une main à quelqu'un qui a été amputé ou à greffer un cœur artificiel un jour, est-ce que c'est du transhumanisme ? Voilà. Alors maintenant, prolonger la vie, bon, vous savez, vous connaissez le film Bienvenue à Gattaca. J'aime bien moi ce film parce que c'est l'humanité qui gagne dans ce film. Et celui des deux personnages qui n'a pas été sélectionné dûment à la naissance avec le parfait génome, qui a des handicaps, c'est lui qui réussit à aller dans les astres, c'est lui qui gagne à la nage par rapport à son frère. Moi, je trouve ça touchant. Ça prouve qu'en réalité, l'humanité vaincra. L'humanité, il trouve des tas de soutien, y compris parce qu'il y a bien des humains dans cet univers à Gattaca qui ne sont pas des hommes ou des femmes parfaits. Voilà, il réussit à tomber amoureux de la scientifique qui, pourtant, leur génome... Voilà, donc vous savez, tout ça, l'humanité est plus forte que ça.
Faut-il imposer une limite à l'augmentation et à la longévité de l'homme ?
Vous savez, je crois que la limite, elle est génétique. Hein. Voilà. Est-ce qu'on doit regretter qu'on vive aujourd'hui en moyenne jusqu'à, j'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, en Europe occidentale, dans les classes aisées, on vit facilement jusqu'à 80-90 ans. Moi, ce qui me choque, c'est que dans plein de pays du monde, l'espérance de vie, elle est 20, 30, 40 années de moins, parce que les enfants sont mal nourris, parce qu'il n'y a pas les vaccinations, justement, il n'y a pas aucun accès à la santé d'aucune sorte. C'est ça qui me révolte. Alors qu'on commence d'abord par permettre à l'ensemble de l'humanité, aux 6 milliards d'êtres humains, d'y accéder à tout ça. Alors, c'en est choquant même de discuter, de limiter l'espérance de vie de l'humanité. Quand on sait qu'on condamne 3-4 milliards d'êtres humains à ne pas accéder à l'eau potable, à l'électricité, etc. Donc le combat qu'on mène, il est plutôt d'abord pour permettre à l'ensemble de l'humanité d'atteindre l'espérance de vie qu'on vit ici. Bon, et ça, c'est possible. Et c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et qu'il faut mettre les moyens, on les a. On n'est pas trop nombreux. C'est un petit peu des raisonnements d'une toute petite fraction de la population des pays riches.